Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Syllab, 6h avant minuit, enfin 6h02, on est mauvais aujourd'hui. Vous nous en voulez pas, j'espère. Nous sommes le 3 octobre 2024. Et des neuroscientifiques viennent de découvrir qu'un tableau peint en 1665, la jeune fille à la perle de Vermeer, enferme le cerveau de celles et ceux qui le regardent dans une boucle d'attention dont nul ne peut échapper. Entre sa fameuse perle, son œil et sa bouche, ce serait donc plus que le regard des spectateurs et spectatrices qui seraient captés, mais bien leurs âmes. L'original produirait même beaucoup plus d'effets que n'importe quelle affiche ou reproduction du tableau. Une jeune fille vieille de près de 360 ans qui rend notre cerveau aussi captif que ne le font nos écrans. C'est plutôt rassurant, non ? On commence tout de suite avec le flash.
L'armée officielle du Liban a déclaré ce jeudi après-midi avoir répondu au tir de l'armée israélienne dans le nord de l'État hébreu. Alors que cette nuit, deux frappes israéliennes, une sur un centre de secours du Hezbollah, l'autre en plein cœur de Beyrouth, ont fait plusieurs morts dans la nuit de mercredi à jeudi. 10 aides terrestres au total ont été menées par l'armée israélienne sur la capitale libanaise et sa banlieue durant la nuit, selon l'agence officielle libanaise NNA. Le total des déplacés libanais et libanaises est estimé à 1 million sur les 6 millions d'habitants et habitantes en tout. Ces prises de position avaient choqué le monde scientifique. Aujourd'hui, plus qu'un simple blâme, Didier Raoult est interdit d'exercer la médecine pendant 2 ans à partir du 1er février 2025. Le journal Le Parisien a aujourd'hui révélé que la sanction en appel du microbiologiste marseillais est bien plus lourde. Il lui est reproché d'avoir enfreint plusieurs articles du Code de la santé publique. Il avait notamment encouragé des patients à prendre un traitement à base d'hydroxychloroquine contre le Covid-19 et cela sans qu'il ne soit prouvé scientifiquement. Il avait aussi mené illégalement une étude sur environ 30 000 patients. Quand le droit ne suffit plus, il faut le changer. C'est ce qu'a déclaré hier Bruno Retailleau au Figaro en référence au meurtre de Philippine, une jeune femme assassinée dans le bois de Boulogne. Il a détaillé ses mesures contre l'immigration illégale qu'il souhaite ferme. Il ne veut, je cite, « plus d'eau tiède en la matière car ça ne marche pas ». Pour cela, il souhaite le rétablissement du délit de séjour irrégulier, la restriction de l'aide médicale d'État et du droit au regroupement familial, la facilitation des expulsions, le doublement de la durée maximale de rétention administrative des migrants en situation irrégulière. Enfin, il s'est dit favorable à la présomption d'innocence pour les policiers. Une loi immigration 2 est une des urgences à ses yeux. Aujourd'hui, Gwen nous apporte un éclairage sur un scandale politique, celui des crèches privées. Depuis plusieurs jours, journalistes et politiques s'expriment sur la maltraitance cachée qui a lieu, là où, les tout-petits sont censés être le plus en sécurité.
L'État a-t-il tenté d'étouffer la maltraitance de vos enfants ? Dans l'affaire sur les scandales des crèches privées, le journaliste Victor Castanet accuse l'État de ne pas avoir voulu remettre en cause le fonctionnement des crèches privées. Tout comme Aurore Berger, l'ancienne ministre des Solidarités et des Familles. Elle aurait voulu empêcher une enquête sur leur dysfonctionnement. En début de semaine, elle a exprimé son intention de porter plainte pour diffamation. Ces événements surviennent après la parution du livre « Les Ogres » de Victor Castanet ce 18 septembre. Rationnement des repas et du nombre de couches, encadrantes et encadrants peu qualifiés, manque de personnel, surbooking, soins minutés, mal-être des salariés. Son enquête révèle des atrocités au sein des crèches privées françaises. Ces entreprises ont des objectifs de profit, d'économie des coûts et sont énormément subventionnées par l'État. Partout en France, les villes se tournent désormais vers le low cost. Elles choisissent les crèches les moins chères, là où la rentabilité prime sur le bien-être des bébés et des employés. Depuis quand datent ces maltraitances ? Nous ne le savons pas. Mais déjà en 2019, 2 salariés de People & Baby à Villeneuve-d'Ascq étaient accusés de violences physiques et psychologiques sur 9 enfants. L'enquête de Victor Castanet révèle les secrets de ce même gestionnaire de crèche. Mais comme nous le dit sa quatrième de couverture, un ogre peut en cacher bien d'autres.
Merci Gwen pour ton papier. C'était une figure du rock breton qui avait marqué la scène rennaise des années 80. Franck Darcel, guitariste du groupe Marquis de Sade, a tragiquement disparu en mars dernier. Un hommage au musicien a lieu demain à l'UBU. Jean-Louis Brossard, directeur artistique de la salle, nous en dit un peu plus.
C'est surtout Christian Dargelos, qui était le premier bassiste de Marquis de Sade, voilà, qui a décidé de faire un hommage avec aussi, bah, évidemment, Thierry Alexandre, Éric Morinière, batteur et bassiste de Marquis de Sade, Simon, qui était le chanteur aussi de Marquis, etc. Et donc, ils sont en train de travailler sur un hommage, comme il y en a eu d'autres avant, pour Philippe Pascal, par exemple. Et là, il y a des invités prestigieux, parce que bon, c'est aussi des gens qui étaient fans de Marquis de Sade, donc fans de Philippe Pascal et aussi de Franck Darcel. Là, on va retrouver Dao, Bispo, Stivell et d'autres, quoi. Donc, ils vont venir. Voilà, le chanteur de Jadio aussi qui veut venir. Enfin bon, il y a pas mal de gens qui ont envie de rendre hommage à Franck parce qu'il était à la base de tellement de choses, soit en production, soit en tant que compositeur, soit en tant que musicien. Voilà. Moi, je suis vraiment content que ça se passe ici, mais si ça se passait dans une salle, j'irais quand même. Et Franck aimait beaucoup l'UBU, c'est un lieu qui lui plaisait. Et tous, ils veulent faire un truc assez petit, quoi, parce qu'ils auraient pu remplir une salle plus grande, si tu veux, peut-être, la salle de la Cité. Mais il y a eu un hommage à Philippe Pascal qui a eu lieu, salle de la Cité et tout. Donc je pense qu'ils voulaient aller sur autre chose. Alors après, je ne sais pas comment ils ont construit la soirée. Hein, donc je vais le découvrir comme vous. Ils vont répéter la veille tout cela et le lendemain, il y aura le concert.
Et c'est complet. Mais je connais une autre soirée qui, elle, n'est pas complète. Demain a lieu le retour du MMA à Cesson-Sévigné. Ce sport en cage qui mêle tous les arts martiaux. Vont s'enchaîner pas moins de 12 combats amateurs et professionnels. Ils seront tous exclusivement masculins lors de cette soirée pleine de punch. Le tournoi organisé par l'AEF Championship aura lieu ce vendredi à 20h à la Glaz Arena. En jeu notamment la ceinture amateur du poids en poids léger.
Tu vas y aller, Cyriane ?
Ah oui, oh non.
On peut pas manquer ça.
Bah, je ne peux pas manquer ça, mais malheureusement j'ai d'autres obligations. J'aurais bien aimé y aller.
Moi aussi.
Samedi, donc, pour vous remettre de toutes ces émotions dégoulinantes de transpi, vous pourrez vous rendre place du Parlement pour le marché anti-gaspi. À l'origine de cette initiative, l'Union du commerce du pays de Rennes, soutenue par la ville. Cette deuxième édition se tiendra de 10h à 18h. Au programme des ateliers, des espaces de sensibilisation, des collectes de produits et même des animations pour toute la famille. Pas comme le MMA, je pense. Ce dimanche, à la maison, de quartier de La Touche, Rennes accueille pour la toute première fois le championnat régional qualificatif du jeu de cartes Magic.
Magic est un jeu d'affrontement. Chaque joueur et joueuse incarne un magicien avec 20 points de vie. Le but du jeu est de descendre les points de vie de son adversaire à zéro. Romain, joueur compétitif, nous donne son avis.
Moi, je le considère comme le meilleur jeu de société au monde, honnêtement. C'est vraiment un jeu très intéressant une fois qu'il est maîtrisé.
Comme ça,
ouais.
t'as plus que la 3-3 en bloqueur du coup.
Ouais, donc je suis dans une merde noire.
écoute, je vais attaquer avec tout. Hein.
À la clé de ce championnat, des pochettes de cartes et pour le gagnant, sa place pour le championnat d'Europe qui se déroulera à Lille le week-end du 8 novembre.
Franchement, les gars, mais elles sont folles quoi. C'est vraiment.
Eh bah, GG mec.
Ah, bien joué. Enfin, super belle partie.
Ouais. Ouais. Super partie. Ouais.
T'avais quoi en main?
Oui, je participe aux qualifications du 6 octobre, donc je me suis déjà qualifié deux fois au championnat d'Europe, donc c'est un objectif que j'ai en ligne de mire. Quoi.
Rennes étant une ville étudiante, la communauté Magic est assez importante. Mais qu'est-ce qui fait la popularité du jeu? Un employé du Temple des joueurs nous répond.
Déjà parce que comme le jeu maintenant il a plus de 35 ans cette année, en fait, s'il commence à avoir un phénomène générationnel, il y a des parents qui présentent le jeu à leurs enfants. Donc d'un coup, bizarrement, papa m'a présenté ce jeu-là quand j'étais petit, bah, j'y joue. Donc déjà, il y a ce côté générationnel. Et en fait, c'est un jeu qui parle à beaucoup de monde, puisque du coup, c'est de l'heroic fantasy pur à l'origine. Donc tout le monde peut s'y retrouver, que ce soit des hommes, des femmes.
Je vais attaquer avec
David, un joueur.
Magic, pour moi, surtout la façon dont on joue avec le draft, où on change un peu les cartes qui sont utilisées à chaque fois, c'est un peu un puzzle où on essaye de découvrir au fur et à mesure de s'adapter comment ça marche. J'aime bien le côté un peu explorer comment ça va, de faire les bonnes décisions, se confronter un petit peu aux autres et puis discuter aussi après les parties pour voir est-ce qu'on a fait la bonne décision ou non ou autre. Et à Rennes, on a une bonne communauté pour ça.
Une cinquantaine de personnes est attendue pour le championnat début octobre.
en espérant qu'un Rennes gagne, bien évidemment. En attendant, un autre jeu qui, lui, n'a pas d'aussi beau jour comme, devant lui comme Magic. Et oui, la célèbre réplique de la chouette d'or 18 carats a été découverte après 31 ans de chasse au trésor. Estimée à une valeur de 150 000 euros, l'oiseau de bronze aurait donc été déterré quelque part en France. Pendant toutes ces années, seulement 11 petits indices à disposition des chouetteurs et des chouetteuses pour tenter...
Elle est là.
Elle est avec nous. C'est nous qui l'avons trouvée en fait. Pour tenter de découvrir le trésor, le jeu lancé en 1993 par Régis Hauser, alias Max Valentin, et Michel Baker a donc pris fin aujourd'hui. On ignore encore la localisation du trésor et, les... et l'identité du vainqueur ou de la vainqueuse.
Une chose est sûre, c'est pas moi. Hein.
C'est... Mais elle est dans la pièce. Hein.
Ouais, on a entendu, non ?
Qui a gagné
Merci pour ce flash, Cyriane. Tout de suite, je reçois nos invités du jour aux côtés de Julia.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllab.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
À minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Petite allure canadienne avec sa chemise verte à carreaux, Florian Dupéret, chargé de communication et des relations presse de l'agence locale de l'énergie et du climat du pays de Rennes, est aux côtés de Lisa Béroumonier, chargée de mission mobilité durable. Elle, de son côté, pulse au mont. Elle rayonne autant que ses bagouses dorées aux doigts. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Peut-être que pour commencer, vous pourriez nous présenter votre association un peu plus en détail parce que je pense que tout le monde ne connaît pas l'Agence locale de l'énergie et du climat.
Oui, alors l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc l'ALEC, c'est une association qui travaille sur tout le pays de Rennes. Donc le pays de Rennes, ça va être à la fois Rennes Métropole, Liffré-Cormier Communauté, le pays de Château-Giron et le Val d'Ille-Aubigné, donc un ensemble assez important de communes. L'idée de cette agence, c'est d'accompagner les acteurs et les actrices du territoire sur leur transition énergétique et écologique. Donc de travailler sur les notions à la fois de sobriété, d'efficacité énergétique, mais aussi sur la production d'énergie renouvelable et sur tout un tas de thématiques en lien avec le climat, que ce soit sur l'adaptation au changement climatique, que ce soit sur la production d'énergie citoyenne particulièrement ou également les mobilités douces.
Alors aujourd'hui, plus particulièrement, vous venez nous présenter, nous parler d'un service qui fête ses 1 an en ce moment, le service de conseil en mobilité durable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà l'origine de cette initiative ? Comment est-ce qu'elle s'est mise en place ?
Oui, alors l'idée, c'était de pouvoir regrouper plusieurs services. Par exemple, si on va demander des conseils à la STAR, ils vont nous donner des conseils sur leur réseau de transport. Si on va voir Bresgo, ils vont nous donner des conseils sur le réseau Bresgo. Là, l'idée, c'était de pouvoir regrouper toutes les infos pour la personne et aussi d'intégrer le vélo, les itinéraires vélo. Aussi, on peut avoir des contraintes, des besoins particulier en fonction du coup de ses itinéraires, de le soir je fais telle activité, et ça une application non plus ne va pas pouvoir la prendre en compte forcément. Donc voilà, d'où c'est né.
Très bien. Et donc pour quelle raison est-ce que vous avez choisi de développer cette association, enfin cette idée, d'où est-ce qu'elle vous vient?
Alors l'association, nous on fait partie de l'équipe salariée, il y a une trentaine de salariés à l'ALEC. C'est une association qui existe depuis 1997, il me semble. C'est une association qui à la base a été créée à l'initiative d'élus et de collectivités du territoire. Mais aujourd'hui, dans cette association, il y a aussi des acteurs privés, des personnes morales. Il n'y a pas forcément que des collectivités. Il y a tout un tas de personnes avec qui on travaille à l'année.
Très bien. Et donc, si on parle un petit peu de chiffres, combien de personnes avez-vous aidé lors de cette première année ? Quel est le profil un peu type des personnes qui vous sollicitent ? Est-ce que c'est des personnes plutôt jeunes, plutôt âgées, etc. ?
Alors du coup, on va arriver bientôt à une quarantaine de personnes. C'est vrai que ça a été un enjeu de faire connaître le service. Au niveau des profils, pour le moment, on a eu beaucoup de salariés, majoritairement des femmes, qui viennent souvent en autosolisme, donc seuls en voiture à leur travail, des gens qui habitent en dehors de Rennes, mais qui travaillent sur Rennes. Et au niveau des motivations de pourquoi le conseil, c'est des gens qui ont leur entreprise qui change de siège, donc comment faire
par la suite, des gens qui n'ont plus envie de venir seuls en voiture parce que ça fatigue, il y a les embouteillages, ou alors qui se posent des questions sur l'empreinte carbone, comment la réduire, et aussi d'autres qui, justement, ont essayé de trouver par leurs propres moyens moyens de transport, mais qui ne trouvent pas de choses qui correspondent, soit au niveau temps, soit au niveau budget ou autre.
Et concrètement, le suivi de ces personnes, il se déroule comment ?
Alors, du coup, la personne va venir prendre rendez-vous. Donc, ça peut être soit par téléphone, soit on a une adresse mail. Ensuite, on va lui proposer un entretien. Ça dure à peu près 45 minutes. Donc, ça peut être dans nos locaux en présentiel. Donc, on est situé à côté du métro Clémenceau. Ou alors, on fait par téléphone au visio. Et là, l'idée, c'est d'avoir un diagnostic de tous les déplacements du quotidien. Donc, ça peut être domicile études, domicile travail, les loisirs, les vacances, tout ça. On va discuter de tout ça. Et on va parler des contraintes, des besoins et identifier les freins qui peuvent être psychosociaux, qui peuvent être financiers ou autres pour pouvoir adapter les solutions proposées. Donc les solutions, elles vont être proposées dans un second temps via une synthèse écrite où du coup on va proposer des choses plus en lien avec les modes actifs, les transports en commun, la voiture. Autrement, on n'a pas toujours le choix que de prendre sa voiture. Et donc, on va avoir des notions de temps pour pouvoir comparer chaque mode de transport, des notions d'empreinte carbone, les budgets et aussi un espace ressources où on va mettre toutes les associations qui existent sur le bassin de vie de la personne, donc que ce soit vélo, covoiturage ou toute autre chose qui pourrait l'intéresser avec des liens pour qu'elle puisse aller plus loin si elle a besoin.
Donc, c'est un service gratuit. Et comment financez-vous vos actions, justement ?
Alors, du coup, on va avoir la grosse partie, c'est l'ADEME, Agence de maîtrise des énergies et... Ah ! Voilà, ADEME Bretagne. Et aussi, on va avoir une partie par Rennes Métropole.
Après, ça dépend d'un projet à l'autre. En tout cas, sur celui-ci, c'est l'ADEME et la région Bretagne.
Voilà, et Rennes Métropole, du coup.
D'accord. Et donc, les personnes que vous suivez, elles le sont sur le long terme. Et donc, qu'est-ce que ça vous a appris de plus à vous, peut-être aussi aux autres personnes qui travaillent avec vous ?
Alors, sur le long terme, en fait, ça va être... Donc là, moi, j'arrive dans la phase où je commence à réavoir les personnes. Et c'est voir si elles ont pu changer de mobilité et sinon, quelles sont les raisons. Et après, elles peuvent poser aussi d'autres questions. Et puis, comme on disait... on peut changer de situation, l'entreprise peut changer de place, on peut, qu'en étudiant, se retrouver en alternance ou alors ou avoir un stage. Et du coup, ça fait que y a des nouvelles, on se retrouve aller dans des nouveaux endroits, donc il y a des nouvelles questions qui se posent. On peut aussi avoir nos revenus qui changent, plein de choses comme ça, qui font que rappeler 6 mois après, ça peut être bien.
D'accord, donc il y a une durée type ou pas du tout ?
Et alors ça c'est une durée type, après ça va être aussi en fonction de la personne parce que si ça se trouve dans les 6 mois elle n'a pas pu changer pour X raisons mais un an après elle aura changé, en fait ça va être en fonction de la discussion qu'on va avoir avec elle qu'on va savoir s'il y a besoin d'un accompagnement plus long terme ou non.
Et quel genre d'aide financière les habitants et habitantes de la métropole, et d'un peu plus loin d'ailleurs, peuvent-ils ou elles recevoir concernant la mobilité ?
Alors il va y avoir des aides pour avoir un vélo, il va y avoir aussi pour le changement de véhicule, pour avoir des véhicules moins polluants. Et on va aussi avoir au niveau des transports en commun, en fonction de ses ressources, il y a des choses qui ne sont pas toujours connues, la tarification solidaire, etc. Le tarif étudiant, je pense que celui-là, il est plutôt connu. Mais il y a le tarif aussi étudiant boursier qui va aller un peu plus loin au niveau des aides. Après, on va avoir aussi plus des aides ponctuelles, par exemple l'aide de 100 euros de l'État pour faire du covoiturage, ou alors en fonction du territoire où on habite, Pays de Château, Giron, Liffré-Cormier, Communauté, ils ont aussi des aides supplémentaires pour le covoit, pour l'achat de vélo aussi, et aussi des plus ponctuels, partir en week-end, Bresgo, TER Bresgo va proposer des offres qui sont beaucoup plus avantageuses que si on achète juste son ticket comme ça en allant voir sur le site.
Et donc, vous ne vous adressez pas seulement aux particuliers, mais aussi aux collectivités et aux entreprises, c'est bien ça ?
Oui, là, ça va être plutôt faire des interventions pour faire connaître le service, mais aussi pour sensibiliser aux mobilités durables, faire comprendre pourquoi il faut changer.
Voilà, parce que bon, c'est bien beau de dire aux gens changer, mais s'ils ne comprennent pas pourquoi, ça sera compliqué.
Et comment ces conseils diffèrent selon le fait que ce soit une collectivité ou une entreprise ?
Bah là, ça va être un peu la même chose. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question.
Dans le sens où, est-ce que vous allez conseiller différemment une collectivité territoriale dans sa manière d'agir, de changer, ou une entreprise, est-ce que ça va différer entre les deux pour les initiatives qu'elles peuvent prendre, par exemple ?
Alors, moi, ça va être surtout de l'accompagnement des salariés ou des agents ou des habitants. Je vais moins... mon travail va être moins de conseiller l'entreprise sur sa politique de mobilité. Voilà.
Ok.
Il y a d'autres projets où on est un peu plus dans l'accompagnement technique avec les collectivités ou avec les entreprises, que ce soit par exemple sur les questions de rénovation ou autre, mais sur la mobilité, comme l'a dit Lisa, on va principalement s'adresser à elles sur le volet sensibilisation, donc informer leurs salariés ou leurs habitants et habitantes.
Ok. Et donc, sur la mobilité, si vous deviez faire un bilan là un peu de votre année, est-ce que vous êtes plutôt satisfait des personnes que vous avez pu aider ou pas ?
Oui, parce que dans les retours, il y a eu des gens qui ont acheté un vélo, qui se sont mis à aller en vélo au travail, d'autres qui ont pu réduire leur budget transport en supprimant un abonnement parce que du coup, il y avait possibilité, par exemple, de faire du vélo. Personnes qui ne connaissaient pas la tarification solidaire qui ont pu en bénéficier. Voilà, ça c'est des petits exemples. Mais après, voilà, il reste encore plein d'autres personnes à atteindre, à aider. Donc c'est l'objectif.
Et est-ce que vous estimez que les infrastructures publiques liées à la mobilité, elles sont aujourd'hui suffisamment développées dans la métropole rennaise, dans les campagnes aussi, par exemple ?
Ça dépend où. Rennes, ça va quand même dans le bon sens. Après, les collectivités, pour les communes un peu plus éloignées... ça commence aussi, notamment avec le réseau Express Vélo qui permet de rejoindre maintenant la première couronne. Après, il y a encore, là où il y a travaillé, moi je pense, c'est entre les communes sans passer par Rennes.
D'accord. Et aujourd'hui, je sais aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont le sentiment un petit peu qu'agir à leur échelle, c'est inutile un petit peu face à la pollution plus conséquente que certaines personnes peuvent produire. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire ? Est-ce que vous avez un point de vue sur leurs sentiments, peut-être ?
La question n'est pas évidente. D'autant que c'est plus un point de vue personnel que vraiment le point de vue de l'association. Mais l'association, elle, de ce que j'ai pu voir, parce que je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, elle s'adresse pas forcément sur les éco-gestes. Enfin, l'idée, c'est pas de culpabiliser les personnes à leur échelle individuelle. Certes, on peut toutes et tous agir à notre échelle, mais on va dire que la majorité de la transition, elle s'opère à une échelle plus large. Donc l'idée, c'est déjà de prendre conscience, de partager ces enjeux-là, et puis d'essaimer tout ce qui va concerner les nouvelles méthodes ou en tout cas les moyens de changer... d'action, que ce soit, comme on l'a dit, sur la mobilité, mais sur plein de choses aussi, sur la manière de concevoir un peu la ville. Par exemple, là, on organise des webinaires autour de l'adaptation au changement climatique, donc ça va être repenser un peu la manière dont on conçoit nos communes pour qu'elles restent vivables d'ici 2100, avec potentiellement plus 4 degrés, par exemple.
Et donc, l'ALEC, comme vous nous l'avez expliqué, n'est pas seulement centrée sur la mobilité, même si vous venez nous en parler aujourd'hui. Vous nous avez déjà expliqué un petit peu les autres actions qu'elle peut mener, mais est-ce que vous pourriez plus amplement nous détailler éventuellement ce qu'elle peut faire d'autre ?
Historiquement, l'ALEC, elle s'est d'abord investie sur des missions, notamment de conseil aux collectivités sur tout ce qui va, sur toute la maîtrise de l'énergie. Donc, que ce soit les accompagner sur leur consommation, les accompagner sur leur production d'énergie renouvelable, donc panneaux solaires ou des énergies plutôt thermiques pour chauffer les bâtiments, par exemple. Il y a aussi tout un volet assez important de conseils aux particuliers sur leurs travaux de rénovation. Essayer de faire en sorte que ça puisse rentrer dans les cadres d'éventuelles aides ou financements, mais aussi les accompagner techniquement sur le choix des matériaux, essayer de faire en sorte que les choses soient bien faites. parce que c'est un milieu qui est assez difficile à comprendre quand on est novice. Hein, même, moi-même, je ne comprends pas tout, loin de là. Donc il y a tout ce volet-là. Il y a aussi, plus largement, au-delà de l'accompagnement, il y a la sensibilisation, donc l'organisation d'événements, ou la tenue de jeux sérieux pour essayer de sensibiliser sur différentes thématiques.
Sans culpabiliser. Ouais. Et de manière ludique. On aime bien s'amuser.
Et est-ce que vous avez des projets éventuellement pour l'année 2025 ou sur la mobilité? Est-ce qu'il y a une envie d'étendre aussi quelque chose ou pas?
Sur la mobilité, on a été sur un appel à projet qui s'appelle TIPS, c'est territoire, je suis nulle en acronyme ce soir, inclusif mobilité sobriété. Du coup, avec un autre partenaire, on allait qui s'appelle WeCare, qui travaille aussi pas mal sur l'accompagnement des jeunes, des personnes en recherche d'emploi. Et là, l'idée, c'est d'étendre ce service de conseil. Donc, eux font déjà aussi du conseil mobilité, mais d'être un peu un guichet unique et de pouvoir vraiment aider toute personne en difficulté de déplacement via différentes solutions qui leur sont proposées. Par exemple, ça peut être... un casque virtuel pour quand on vient d'un territoire rural et qu'on n'a jamais été dans la gare de Rennes, ça peut faire peur, on peut ne pas avoir envie d'y aller. Et du coup, ça permet d'avoir une première expérience. On a des choses aussi qui se développeront avec Cities, d'avoir du Cities solidaire, parce que c'est aussi un prix de louer une voiture. Des choses comme ça, avec tout un bouquet de solutions. C'est l'objectif 2025.
Très bien. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses.
Merci à vous.
Merci Lisa et Florian. Juste pour rappeler, les gens qui veulent bénéficier de vos conseils, ils font comment?
Ils peuvent aller sur le site de l'ALEC et il y a une rubrique particulière mobilité. Et du coup, il y a les adresses mail et numéros de téléphone pour prendre rendez-vous.
C'est dit. Merci à vous deux.
Merci.
6h avant minuit.
Aujourd'hui, Lilia va nous présenter les sorties musicales qui lui ont tapé dans les oreilles ces dernières semaines.
Oui, c'est ça, on est sur un thème assez rap. Donc d'abord, il y a le rappeur parisien Yanis qui vient de sortir Poletta.
Posé sur le canapé, tu verras jamais ma gana sur canal. La finesse de R9, René, je suis en verbal brolic. Genre la calage quand t'es canard. Je suis pas le peurin qui se déprécie, chacun de mes flots c'est trop précieux. Je demande pourquoi j'aime pas trop ces messieurs, pourquoi ils se trouvent sous les essieux.
Alors Yanis, c'est un rappeur hyper productif cette année. On est en octobre et il a déjà sorti un album au mois de février et un EP en juin. Je voulais en parler parce que c'est un artiste super polyvalent. Sur son EP, il a opté pour un rap mélodieux et autotuné, comme il en a la recette. Mais ici, là, sur Poletta, c'est le retour d'un son beaucoup plus kické, beaucoup plus sombre d'une certaine manière. Pour poursuivre l'expérience Yanis, si vous en avez envie, n'hésitez pas à aller écouter le Grunt 52. C'est un freestyle avec d'autres artistes prometteurs, ça vaut vraiment le détour et c'est disponible sur YouTube. Donc voilà. Pour continuer sur le rap, il y a un des deux membres du groupe de MMZ, Moa, qui a sorti La Plage jeudi dernier. C'est un album surprenant parce que bien qu'on trouve la touche hip-hop, il chante sur la majorité des chansons, se teste à des sonorités house ou pop. Only You en est la démonstration même. Bref, si vous êtes nostalgique de l'été et que vous cherchez quelque chose de frais, foncez écouter La Plage.
J'attraperai mes dreams, j'attraperai mes crimes, j'attraperai les larmes sur le visage de ma mère. Je rattraperai mes dreams, je rattraperai toutes mes rimes, je rattraperai le temps au bord de la mer.
Dans un autre registre complètement différent et beaucoup plus automnal, Mustapha, artiste canado-soudanais, a enfin sorti son premier album. Donc Dounia est sorti la semaine dernière et c'est un joli cocktail entre de la folk, des instruments et des samples venant de la culture musicale arabe et soudanaise. On retrouve complètement ce mélange sur I'll Go Anywhere que l'on vous passe tout de suite.
I'll go anywhere to be closer to me.
En fond de musique douce, Mustapha parle de sa foi, de sa rage, mais aussi de désespoir. Bref, c'est un album riche musicalement et chargé de signification qui m'a beaucoup touchée. Vraiment, n'hésitez pas à aller écouter ça. En plus de ça, il y a beaucoup de voix qui sont plus ou moins connues, qui viennent harmoniser les chansons tout au long de l'album. Donc ça rajoute vraiment quelque chose, donc n'hésitez pas. Et pour finir, au niveau du chant musical breton, on parle de l'artiste rennais Dudlow, qui tout au long de l'année a sorti des extraits de son nouvel album Saint-Hélier, qui sortira le 11 octobre. Donc le dernier son est dispo depuis la semaine dernière, il s'appelle La Vendetta et on écoute ça tout de suite. Continuer sur l'actualité bretonne, le 18 octobre, ne loupez pas non plus le premier single de la brestoise Louise Papier. Il sortira sous son nouveau label So Fresh So Clean Records.
Merci Lilia pour tous ces petits conseils. On se passe un coup de bigot ?
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ?
Allô ?
La radio sauvage.
Un message à nous faire passer, un fait marquant près de chez vous, une déclaration d'amour ou un coup de gueule, un retour sur nos reportages peut-être. Laissez-nous un message vocal. C'est le 02 30 96 25 35. Il sera peut-être diffusé à l'antenne. Merci à nos bénévoles, Gwen pour le papier, Lilia pour la chronique et Julia pour l'interview. Merci à Timothée pour la technique et on vous retrouve lundi.
Sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe, la radio sauvage.